Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venues aussi nombreuses et nombreux ce soir. Ce soir, c'est une rencontre un peu originale qui était en dehors de notre programme. Donc, merci d'être là et d'avoir été attentives et attentifs. Ce soir, on présente un bouquin signé par les Soulèvements de la Terre. Ça s'appelle Première Secousse. C'est paru aux éditions de La Fabrique. Ce soir, pour en parler, Camille, merci beaucoup d'être là. Geneviève aussi. Geneviève Azan, vous avez écrit il n'y a pas longtemps un bouquin sur l'A69. Donc là, on va avoir l'occasion de parler aussi des prochaines mobilisations entre Toulouse et Castres. Merci beaucoup et bonne soirée.
Eh ben, bonsoir. Déjà, on peut commencer par se présenter toutes les deux. Si on est là ce soir pour parler de ce livre, c'est parce qu'on a participé à un large comité de relecture autour de ce livre et parce qu'on est toutes les deux impliquées dans la lutte contre l'autoroute A69. Et du coup, c'est depuis ces deux positions, disons, qu'on va vous parler ce soir. Moi, je commence par présenter un peu l'objet livre là, que vous avez là. Donc, comme c'était dit, c'est un objet un peu particulier parce que c'est un livre qui a été écrit à beaucoup de mains et relu à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'yeux et d'oreilles encore. Écrit du coup à plusieurs, plusieurs dizaines de mains et relu par plein de gens, puisque, à la condition que ces personnes soient impliquées dans les luttes. Voilà, c'est ça c'est un livre qui est écrit depuis des expériences partagées qui sont celles du mouvement des soulèvements de la terre. Et du coup, ce qui caractérise ce mouvement, justement, c'est que c'est un mouvement qui vient composer plusieurs points d'énonciation, plusieurs luttes différentes, plusieurs expériences différentes. Et fallait du coup réussir à écrire un livre qui puisse parler à la fois à des syndicalistes paysans de la Confédération paysanne, des militants, militantes impliqués dans les luttes, dans les mouvements sociaux depuis des années, à des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans les mouvements climat depuis peu de temps. Voilà. Enfin, du coup, tout ça pour dire que c'est un objet un peu composite et donc dans la ligne politique et elle aussi une ligne de composition. Et enfin, peut-être le dernier point qui caractérise ce livre, c'est que sa livraison a été un peu retardée par la grande vague de répression qu'a connu ce mouvement depuis à peu près un an maintenant. Et voilà, c'était pas sûr qu'il soit pas censuré à sa sortie. Et pour le coup, il l'est pas, puisque le mouvement a résisté à la demande de dissolution. Donc voilà, c'est un livre qui est parfaitement légal et qui peut être lu, ce qui est une bonne chose.
Et présenté
dans des librairies sans risque d'être arrêté à la sortie. Voilà. Voilà pour l'histoire du bouquin. Pour ce qui est de l'intention, enfin de ce pourquoi là, maintenant, les Soulèvements de la Terre écrivent un livre, publient un livre. L'idée, c'était du coup pas de faire un livre manifeste, il est beaucoup trop épais pour ça, vraiment, il aurait fallu qu'il fasse 100 pages sans doute pour ça, mais plutôt une espèce de bilan d'étape. C'est-à-dire que le mouvement, il a 3 ans maintenant, il y a eu quand même des actions qui ont eu un peu d'écho, grâce à Monsieur Darmanin, beaucoup de gens savent ce que sont les Soulèvements de la Terre, mais il n'y avait pas vraiment, enfin au-delà des actions elles-mêmes, à moins de vraiment avoir envie d'aller creuser des choses, il n'y avait pas grand-chose qui permettait de replacer ces actions dans des hypothèses politiques, des perspectives stratégiques, des traditions de lutte aussi. Et du coup, c'est ça le but du livre, c'est de raconter. Il y a des récits d'actions, des récits de lutte qui sont analysés. Enfin, ensuite, ces récits sont décortiqués, analysés dans les hypothèses politiques que portent ces tentatives-là, et aussi dans les limites, les difficultés, les paradoxes que les actions, les luttes qui sont racontées peuvent poser. Et voilà, l'un des premiers buts de ce livre, c'est de susciter la discussion, en fait. C'est que au sein des luttes, plus largement, voilà, ouais, au sein des luttes en particulier, toutes les hypothèses qui sont tenter et les difficultés que ça, ces hypothèses-là posent, soit discuter, soit relever, soit que ça déplace des lignes, etc. Parce que aussi, et l'idée c'est pas que ce soit restreint au champ vraiment que du milieu écologiste, bien que ce soit celui dans lequel s'ancrent les soulèvements de la Terre, évidemment. Parce que, comme c'est dit dans le livre, peut-être on en reparlera, mais la question de la Terre, elle est au carrefour de plusieurs enjeux. Évidemment, un enjeu écologiste de défense des milieux de vie, mais aussi des enjeux sociaux, de réappropriation de nos capacités de subsistance, d'autonomie matérielle, enfin, d'indépendance vis-à-vis du capitalisme, et aussi des enjeux coloniaux, puisque là, par exemple, il y a un rassemblement en soutien à la lutte du peuple palestinien au moment même où on vous parle. Et évidemment que là, c'est aussi une histoire de terre. D'appropriation des terres, de défense des terres, d'autodétermination et de rapport à la terre. Voilà, peut-être je termine cette courte introduction en disant que, évidemment, aussi un des buts du bouquin, c'est de nous faire agir. Et que là, dans 10 jours, il y a un gros week-end de mobilisation dans le Tarn, à côté de, quelque part sur le tracé de la 69, donc entre Verfeil et Castres, qui sont 3 jours d'action et de mobilisation. Et que sinon, il y a aussi une semaine dans le Marais Poitevin pour lutter contre les bassines, parce que c'est pas fini, du 14 au 21 juillet. Voilà, j'ai fini mon introduction.
Bon, bonsoir tout le monde. Donc je vais rajouter, puisqu'on est dans les dates, disons, que les trois jours entre Castres et Verfeil, ce sera aussi des journées de débat. Il y a des tables rondes, il y a des promenades naturalistes, il y en a pour tous les goûts. Et bon, plus des manifestations, actions. Et quand même, la situation par rapport à l'autoroute, à la fin de la semaine dernière, il y a 11 personnes qui ont reçu une convocation à la police, pour la police, qui sont accusées de complicité de dégradation matérielle. Parmi ces 11, ce sont des habitants du coin, des gens de la Voie est libre, du GNSA, du groupe national de surveillance des arbres, et 2 personnes d'attaque, Tarn. Voilà, donc, ils sont convoqués tous jeudi matin, c'est-à-dire demain matin, et il y a un rassemblement à Castres, jeudi soir à 19h. Bon, il y a des covoiturages qui s'organisent de Toulouse pour aller renforcer nos amis à Castres. Bon, évidemment, c'est lié sans doute à la future mobilisation du 7-8-9, évidemment. Et c'est lié aussi quand même à une entreprise de répression tous azimuts qui touche... Bon, bien sûr, particulièrement les activistes de l'autoroute, mais aussi tous les mouvements sociaux, comme on peut le voir. Donc ça entre complètement dans cette logique-là. Bon, bien sûr, ce sont des personnes qui souvent sont, parmi les 11, qui sont très engagées dans la construction aussi de l'événement 7-8-9, enfin 6-7-8, je ne sais plus. Bon, bref. Donc 7-8-9. Voilà, donc ça dit un petit peu la tonalité, hein. C'est-à-dire que la seule réponse à tout ce qui est dit concernant l'autoroute, à tous les arguments, à toutes les oppositions qu'il peut y avoir, qui sont solides, scientifiques, etc., la seule réponse jusqu'ici, c'est la répression. Il n'y a aucune autre réponse que la répression, l'intimidation, parce que ça relève de l'intimidation aussi, hein, ce qui va se passer. Mais ce qu'on a appris quand même, c'est qu'il y aurait très certainement des gardes à vue à la clé demain. Donc voilà. Bon, voilà pour un petit peu le contexte et les dates. Alors je reviens au soulèvement de la Terre. Et un peu, je vais rapidement faire un petit peu le récit des origines de cet objet, enfin, qui n'est, on verra, ni un mouvement, ni une coalition, c'est un peu plus compliqué. Donc, récit des origines, en fait, donc, Camille, tu l'as dit, il a 3 ans, ce mouvement. Il a débuté à Notre-Dame-des-Landes en 2021. C'était entre 2 confinements. Donc, dans ses origines, hein, il y a vraiment la crise du Covid et cette espèce de bouclier qui nous est tombé dessus. Et donc le désir de sortir de là. Il y avait eu auparavant l'épisode des Gilets jaunes qui, je crois, bon, a beaucoup marqué beaucoup de personnes. Et la fin des Gilets jaunes, disons, hein, tout l'épisode répressif qu'il y a eu concernant les Gilets jaunes, etc. Et puis une nouvelle manière de penser aussi. En tout cas, ça a beaucoup interrogé les questions écologiques, hein, cette mobilisation des Gilets jaunes. Et ensuite aussi... l'épuisement du mouvement climat dans sa forme, grandes manifestations, démonstrations, etc., et demande aux États d'agir, etc., etc. Donc un épuisement de ces formes de mobilisation massive, mais complètement inefficace pour faire bouger, quoi que ce soit. Donc à partir de là, il y a eu le désir de faire redescendre l'écologie sur Terre. Hein, c'est souvent exprimé dans le bouquin, faire redescendre l'écologie sur Terre. Et ça, l'épisode Gilets jaunes aussi a été extrêmement éducatif là-dessus, hein, sur la nécessité de faire redescendre l'écologie sur Terre et dans la société. Donc. Et ce livre défend l'idée de lutte terre à terre. Hein, il s'agit pas, on n'est pas dans les abstractions de la Terre avec un grand T, ou de la planète, ou je ne sais pas quoi, mais de la Terre, c'est-à-dire du sol sur lequel nos sociétés, nos communautés habitent et sont implantées. Et donc, à partir de là, à partir de ce un grand week-end, donc à Notre-Dame-des-Landes, et de nombreuses discussions, des acteurs extrêmement divers, hein, parce que les origines sont diverses, des acteurs qui sont extrêmement divers et qui se mettent d'accord, il y a un accord qui se tisse, bien entendu, sur le fait de, pour faire revenir sur Terre l'écologie précisément, c'est d'agir concrètement, très concrètement et pragmatiquement contre les infrastructures matérielles, hein, qui aujourd'hui, du capitalisme, les infrastructures majeures du capitalisme, les infrastructures matérielles qui organisent finalement cet ordre du monde. Et dans le choix des infrastructures matérielles du capitalisme, il y avait l'intention de ne pas se disperser, de concentrer aussi des efforts et donc de trouver un peu une ligne commune, quelque chose, un horizon commun en tout cas pour des luttes. Et les choses se sont faites autour de l'accaparement de la terre et de l'eau qui va avec, hein, évidemment, et du béton. Ces deux, et donc c'est tout le système agro-industriel, c'est pas simplement la terre, mais c'est tout le système agro-industriel qui est un système qui véritablement mène la guerre aux vivants, hein, qui mène la guerre aux vivants, et tout le système par ailleurs du béton, de la construction, les autoroutes, etc., tout ce qu'on peut avoir. Et donc c'était l'idée de mettre le phare sur toutes les luttes contre l'artificialisation, l'accaparement des terres. Et je reviens un peu sur aussi ce que tu as introduit, Camille, c'est que précisément cette idée autour de l'artificialisation, l'accaparement des terres, elle est complètement transversale, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dimension écologique, il y a une dimension paysanne essentielle, il y a une dimension sociale et il y a une dimension coloniale ou décoloniale. Et donc, ces quatre dimensions sont intriquées, elles ne se suivent pas, ne se succèdent pas, hein, elles sont totalement intriquées. Et véritablement, ces deux axes du béton et de l'accaparement des terres, c'est vraiment, elles ont été identifiées comme, ces secteurs ont été identifiés comme vraiment des armes de guerre fondamentaux, essentielles de la restructuration capitaliste et du capitalisme. Donc voilà, donc il y a eu des discussions autour de ça, c'est comment ne pas éparpiller les luttes, comment se recentrer sur des choses qui nous paraissent centrales et assez transversales. Alors, ce mouvement, je disais, il y a eu des gens extrêmement divers qui ont participé à la construction des soulèvements de la Terre, et dès le départ est posée la question de la composition. De la composition du mouvement, hein, de la composition de cet objet soulèvement de la terre, avec l'idée que, parce que ça venait beaucoup après ça aussi, qu'il ne s'agissait absolument pas d'organiser une convergence des luttes. Ça, on a beaucoup entendu dans les années précédentes l'idée que pour arriver à obtenir des résultats, il fallait faire converger les luttes, c'est-à-dire chaque lutte reste dans son domaine et puis elle convergerait. Donc c'est pas la convergence des luttes. C'est pas non plus un c'est pas des alliances évidemment de c'est pas des alliances d'appareils. Hein. C'est donc une c'est le fait de considérer que il y a plusieurs éléments hein, qu'il y a dans les problèmes que nous avons à affronter, il y a une pluralité des dimensions de l'action. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas, je l'ai dit un peu, dimension écologique, paysanne, sociale, décoloniale, mais donc il y a une pluralité des dimensions de l'action. Et ce n'est pas juxtaposer ces pluralités, c'est enchevêtrer. Et dans l'idée de composition, il y a cette idée aussi hein, d'enchevêtrement. Ce n'est pas simplement ajouter des forces. Hein. C'est en faisant du commun entre ces forces, c'est modifier ces forces-là aussi, chacune se modifiant dans la composition. Et puis c'est aussi partir du constat qu'aucun des blocs, que ce soit les gens qui viennent plutôt du mouvement climat, d'autres du mouvement paysan, d'autres des luttes sociales, d'autres du mouvement autonome, par exemple, des mouvements urbains, des mouvements autonomes, il n'y a aucun bloc qui soit monolithique, qui ne soit pas traversé de questions, de complexité, etc. Et donc, l'idée de composition, c'est aussi c'est de faire avec toute cette c'est pas simplement une diversité, hein, de tisser à partir de là quelque chose de commun. Il y a aussi une idée qui préside à cette idée de composition, c'est que il n'y a plus, comme nous pouvions le penser il y a 50 ans, je ne sais pas, il n'y a plus un sujet révolutionnaire qui serait investi de la tâche, hein, le prolétariat, qui serait investi de la tâche de dépasser le capitalisme, d'aller vers le socialisme et le communisme, comme pendant très longtemps les mouvements sociaux l'ont pensé, hein, avec les autres mouvements étant considérés comme périphériques ou secondaires, etc., avec l'acteur classe ouvrière, le prolétariat, au centre, hein, et qui allait mener la révolution pour tout le monde, quoi, qui était investi, hein, de cette universalité. Et là, on sait très bien qu'il y a un éclatement du sujet révolutionnaire. Il y a des sujets, hein, et pas un sujet révolutionnaire, potentiellement révolutionnaire. Il y a bon, tout ce qui c'est les femmes, par exemple, les paysans, les paysannes, les peuples autochtones, certains diront aussi, les mouvements sociaux traditionnels contre le racisme, etc., etc., les luttes, oui, de quartier dans les villes, etc., etc., là aussi, les luttes contre le racisme, il y a aussi des ferments, hein, potentiellement révolutionnaires, et donc il n'y a pas un sujet qui serait investi et auquel on devrait se rallier pour pouvoir mener à bien le projet révolutionnaire. Donc ça aussi, ça entre dans l'idée de la composition. La composition, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça se fait dans les luttes. Alors oui, ça, je devrais le dire aussi, c'est que ce n'est pas abstrait, cette composition, elle se fait dans les luttes. On le voit pour la 69. Hein, dans la 69, il y a une diversité d'acteurs et diversité aussi, des tactiques aussi, hein, des luttes, mais qui ne sont pas juxtaposées, qui sont censées, en tout cas, c'est le but, hein, qui sont censées se polliniser, disons, jouer sur le fait qu'aucun de ces acteurs n'est monolithique, c'est très compliqué. Et donc, voilà, c'est un effet de synergie. Hein, 1 plus 1 n'égale pas 2. Hein, 1 plus 1, dans ce cas-là, ça fait 3. Hein, donc, c'est cette idée-là qu'il y a dans la composition. Et donc, l'idée, c'est de faire du commun. Mais encore une fois, là, je le présente, ça a l'air d'être un peu théorique, mais la composition, elle se construit très concrètement et pragmatiquement dans les luttes. Il raconte, dans le bouquin, il y a un chapitre qui est très bien, qui raconte une des premières compositions où là, vraiment, il pensait qu'il n'y arriverait absolument jamais, tellement il y avait des divergences au sein des différents acteurs autour de cette lutte. Et finalement, dans la lutte, tout ça, c'est finalement conjugué. Voilà. Alors, l'idée aussi, je suis un peu long, je vais raccourcir, autour de ce récit des origines, dès l'origine, il y a l'idée donc du fait qu'on apprend dans l'action et ces actions et réhabiliter, disons, l'action directe de masse. Demain, c'est important. Ce n'est pas l'action directe minoritaire d'une avant-garde éclairée du prolétariat, mais c'est l'action directe de masse avec des blocages, des occupations et des opérations de désarmement. On pourra y revenir si vous voulez. Donc ça c'est vraiment fondateur. C'est fondateur au niveau de l'action. Si bien que les soulèvements de la Terre sont une organisation finalement hybride qui est en construction, qui est à la rencontre d'une coalition, d'un mouvement et d'une organisation plus structurée. Bon, tout ceci, bien entendu, est en construction avec beaucoup de questions, de paradoxes, etc. En tout cas, ça regroupe des collectifs du mouvement climat, les organisations paysannes, des habitants et habitantes en lutte, le mouvement des mouvements anticapitalistes et autonomes, des luttes urbaines, etc. Et nouveauté, depuis l'entreprise de Darmanin de volonté de dissolution des soulèvements, c'est la naissance des comités locaux. Partout, il y a 200 comités locaux, des soulèvements de la Terre qui font partie aussi de cet objet soulèvement de la Terre. Dernier point, outre le principe de l'action directe de masse, c'est fondé sur des luttes territoriales. Là aussi, on pourra en rediscuter, c'est partir des luttes territoriales. Mais partir des luttes territoriales ne signifie pas simplement partir de luttes locales. Il n'y a plus tellement de local. C'est partir de luttes localisées, mais qui ont immédiatement une dimension globale, en fait. Donc, ce n'est pas du localisme. Ce sont des luttes locales, ancrées. C'est des luttes ancrées, des luttes situées. Alors moi, je dis souvent localiser pour les opposer à des luttes qui seraient simplement à dimension purement locale. Et donc, il y a ce choix-là. C'est pas le choix de dire on va partir seulement par en bas, parce que là aussi, il y a beaucoup de transversalité. C'est que dans ces luttes locales, on rencontre tous les acteurs du capitalisme global. Quand on regarde la 69, on a les acteurs du capitalisme global qui sont là. Donc, c'est à partir de luttes localisées, créer des contre-pouvoirs, des contre-institutions, si c'est possible. On pourra donner des exemples. Créer des contre-pouvoirs. Et dans l'organisation Soulèvement de la Terre, l'idée, c'est aussi de créer des coordinations, disons. Par exemple, ça existe déjà pour ce qui est des autoroutes, des routes. C'est la Déroute des routes, qui est une coalition qui coordonne l'ensemble des actions aujourd'hui contre les autoroutes, les routes, les contournements urbains, etc. etc. Donc il y a cette idée-là de coordonner ces actions territoriales. Un territoire n'est pas obligatoirement d'ailleurs petit. Un territoire, ça peut être une lutte sur un territoire petit, effectivement, mais ça peut être aussi une lutte sur un territoire beaucoup plus grand. Voilà. Je ne sais pas, ça va ? Tu veux rajouter quelque chose sur les origines ?
Non, parce que je me dis qu'aussi on va répondre à des questions, que ce sera plus dynamique peut-être si vous posez des questions dans la deuxième partie de la présentation. Enfin, moi, juste, je vais essayer de résumer un peu le livre, de raconter un peu le contenu et du coup, s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne et qu'on approfondisse, voilà, l'idée c'est plutôt d'ouvrir à la discussion dans un second temps. Mais quand même, je vais faire ce petit exercice de résumé pour que, aussi, si jamais vous avez envie de lire juste des petits bouts, ce soit possible. Puisque, comme du coup le livre a été écrit à plusieurs mains, les chapitres sont quand même relativement indépendants les uns des autres. Enfin, c'est tout à fait possible de venir piocher des choses là où ça vous intéresse. Et donc voilà, comment il s'articule ? Il y a 4 grands chapitres, dont les 3 premiers correspondent aux 3 grands mots d'ordre ou hypothèses qui sont les mots d'ordre initiaux du mouvement. À savoir, désarmer, démanteler et reprendre la terre. Du coup, le premier chapitre s'appelle « Désarmer le béton ». Et il s'est du coup à la fois éclairé la question de la filière béton et la question du geste du désarmement, en partant d'un récit qui est celui des premières actions des soulèvements. Du coup, à peu près toutes les parties s'articulent selon cette structure. Un récit, l'hypothèse qu'on peut abstraire de ce récit, l'hypothèse politique que ce récit et tente de mettre en œuvre. Puis le paradoxe que pose cette hypothèse politique, et parfois il y en a deux, et parfois il n'y en a pas, des partis qui sont plus des partis de positionnement théorique sur des questions spécifiques. Voilà, ça c'est la structure générale des partis. Et donc je reviens à la première qui se concentre sur le béton et le désarmement. Voilà, la filière béton, je vais pas, enfin, à moins qu'il y ait des questions dessus, je vais pas m'étendre, mais il y a une présentation de en quoi elle consiste et en quoi justement du coup à l'endroit du béton, c'est un point d'entrée dans le capitalisme global. Et un autre parti du coup qui se concentre sur à la fois le geste et le mot de désarmement, puisqu'évidemment il s'agit quand même de venir mettre un nouveau mot sur la très vieille tradition du sabotage, mais un mot qui a quand même une portée éthique, enfin qui consiste à dire en quoi on s'attaque à ce qui nous tue, et du coup qui dit en même temps le sens et en même temps le geste, alors que dans sabotage, il y a aussi un effet évidemment protecteur dans le fait d'utiliser ce terme, mais voilà, c'est ce sens-là, il n'est pas dit. Dans cette première partie, il y a aussi du coup un moment qui s'intéresse au paradoxe de l'activisme, puisqu'on pose la question du désarmement, ça pose aussi la question, le paradoxe, de l'espèce de rapport frénétique au temps qui se joue souvent dans l'activisme, qui consiste à enchaîner les actions. Voilà, le point de départ, le pari de départ des soulèvements de la Terre, c'est de mettre l'action au centre, de dire en fait il faut commencer quelque part, on ne va pas faire un plan tout bien, tout parfait pour dire ce qu'il faut faire avant de le faire. En fait, c'est en agissant qu'on se rend capable et confiant dans nos capacités collectives d'agir. Du coup, il faut commencer à agir et c'est avec l'action que viendront les certitudes, les plans et la confiance en nous, en nos puissances populaire d'action. Mais malgré tout, cette certitude-là, elle va avec un problème ou une limite qui est la question de l'activisme, du fait d'enchaîner les actions, de plus avoir justement le temps de voir venir, le temps d'élaborer, d'être pris dans quelque chose qui parfois va jusqu'à perdre son sens, à juste dire agir pour agir, quoi, disons, et plus voir le sens de l'action. Voilà, j'en dis pas plus, c'est élaboré dans cette partie, mais c'est la question que pose. Le fait de mettre l'agir au centre, c'est le problème de l'activisme. Voilà pour cette première partie. N'hésitez pas, du coup, s'il y a plus tard besoin d'y revenir. Je voulais quand même juste dire que cette première partie, elle part d'un récit qui se passe à Saint-Colomban et que comme il n'y a pas non plus tant de victoires, mais il y en a quand même quelques-unes. Pour le coup, là, cette lutte-ci, elle a obtenu récemment l'abandon du projet d'extension de carrière, Lafarge, contre lequel elle se battait, là, au début de l'année civile. La deuxième partie, du coup, elle va plutôt essayer de dire dans quelle stratégie s'inscrivent ces gestes de désarmement, justement pour pas être pris dans cette espèce de logique activiste parfois un peu qui manque parfois d'horizon. C'est l'idée d'inscrire ces gestes dans des stratégies à plus longue perspective, qui sont des stratégies de démantèlement, c'est-à-dire vraiment l'idée de faire tomber des filières. Par exemple, les soulèvements de la Terre, ils choisissent de se concentrer sur l'agro-industrie. Il y en aurait d'autres, hein. Il y en a des tas, hein, des filières nocives et destructives, et destructrices, etc. Mais voilà, il y a un choix qui est fait depuis l'ancrage paysan, parce qu'aussi la question de la nourriture, ça nous touche tous et toutes. Enfin, voilà, c'est une question qui est, encore une fois, au carrefour de plein de problématiques. Donc il y a ce choix-là. Et l'hypothèse du démantèlement, c'est celle qui consiste peut-être à dire, contrairement à un certain héritage marxiste, il y a des choses qui ne sont pas réappropriables, qu'il faut défaire, qu'il faut détruire. Et notamment l'agro-industrie, par exemple. Ce qui implique aussi, du coup, dans ces filières-là, de venir choisir stratégiquement des endroits ou des lieux de la filière qui sont des points clés, des points clivants, enfin des points qui potentiellement peuvent permettre de faire tomber la filière dans son ensemble. Et par exemple, le choix des bassines, il s'inscrit là-dedans. C'est vraiment un lieu de l'adaptation de l'agro-industrie. Enfin, l'adaptation du capitalisme au bouleversement écologique, quoi. C'est comment l'agro-industrie va faire avec la raréfaction de l'eau, avec comment on continue à faire pousser du maïs pour l'exportation alors qu'il n'y a plus d'eau. Ben, en fait, on fait des bassines. Donc peut-être que si on bloque les bassines, l'agro-industrie va avoir des problèmes. Donc ça, voilà pour cette hypothèse qui prend aussi le temps de faire tout un récit de, ce que ça a été que la destruction du monde paysan en France, comment cette filière agro-industrielle, elle s'est constituée et elle a remplacé le monde de la paysannerie depuis les années 50, en gros. Et du coup, le problème ou la limite que pose cette stratégie-là du démantèlement, c'est un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de la confrontation. C'est-à-dire, si on s'oppose, on cherche à défaire, détruire des choses, on se retrouve face au fait que les tenants de l'ordre établi vont le refuser, et le refuser violemment. Et du coup, dans ce rapport-là à la confrontation, l'idée, c'est de... En tout cas, ce qui est le problème qui est posé, c'est qu'il s'agit de ni tenir il s'agit de pas tenir des positions idéologiques figées, quoi, ni du côté de l'idée d'une désobéissance civile non violente par principe, qui du coup se refuserait à tout illégalisme au nom d'un refus de toute atteinte et aux biens et aux personnes, ni à l'inverse d'une fétichisation de la violence qui viendrait juger de l'efficacité d'une action sur sa capacité à rentrer en confrontation avec les forces de l'ordre. Donc voilà, c'est au sein de ce double impasse-là que tentent de naviguer les soulèvements de la Terre en se donnant des objectifs qui sont matériels et les capacités d'y parvenir. Et puis ce qui va aussi avec cette hypothèse du démantèlement, c'est qu'est-ce qu'on propose. Enfin, si on défait des choses, il faut aussi en construire. Et dans ce qui est proposé dans la partie, à la fin de cette partie, c'est la perspective de la subsistance, qui consiste à dire que si on ne délègue pas à des industriels hautement mécanisés et concentrés les capacités de nous nourrir, et ça signifie qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, il y a une réappropriation populaire de la subsistance et du point de vue de la nourriture, mais aussi plus largement la subsistance, c'est-à-dire la capacité de prendre soin et régénérer la vie ou les vivants, c'est-à-dire aussi autant la question de la santé, la question de l'enfance, tout un tas de questions qui sont prises en charge essentiellement par le mouvement féministe aujourd'hui et qui posent en fait la question, ou pour le dire avec des grands mots, de l'autonomie par rapport au marché. Et qui, dans plein de sociétés, et en fait plein d'espaces de nos sociétés, en réalité, sont déjà prises en charge de manière autonome par rapport au marché. Et du coup, l'idée, c'est de s'inspirer de ces capacités-là, déjà à faire sans, et à faire soi-même, pour l'étendre plus largement, et se rendre capable de se passer de l'industrie. Donc, voilà pour les deux premières parties. Et je présente rapidement la troisième et après peut-être on passe aux questions. Du coup, il y a cette troisième partie qui est un peu dense, enfin qui est la plus longue, qui s'appelle « Reprendre la Terre ». Et où l'hypothèse centrale, pour le coup, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, je viens pas des milieux paysans, je suis pas impliquée dans aucune forme de travail agricole, donc je vais pas prétendre parler au nom de ces travailleurs et travailleuses-là. Tout ce que je peux dire, c'est que un des points de départ des soulèvements de la Terre, c'est l'idée que maintenant ça va, tout le monde a ces chiffres-là en tête grâce au mouvement récent des agriculteurs. Mais il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite dans 10 ans, ce qui signifie que la moitié des terres aussi vont se retrouver disponibles à l'achat et potentiellement avalées par l'agrobusiness, si justement il n'y a pas un mouvement de lutte ou un changement du rapport de force au sein du foncier, enfin de la question de la terre et du foncier. Et c'est un des points de départ des soulèvements de la Terre, pour le coup, dans sa dynamique plus paysanne, qu'encore une fois, je maîtrise mal. J'avais dit que c'était toi qui présenterais cette partie.
Vas-y.
Pardon. Bon, bref, en tout cas, c'est la partie qui prétend essayer de répondre au fait qu'on est dépendant du système qu'on combat, ce qui est un problème qui se pose, je pense, très largement à toutes les luttes sociales, et que, pour le coup, les soulèvements de la Terre tentent d'affronter. Mais, évidemment, il faut le dire, c'est à la fois l'hypothèse centrale, et peut-être, après ces trois premières années... la plus problématique. Enfin, non, il n'y a pas eu un vaste mouvement de vocation paysanne qui a repris la terre depuis 3 ans, parce qu'en fait, c'est super dur. C'est dur comme métier, c'est les logiques administratives et professionnelles qui gouvernent le monde paysan sont des logiques extrêmement difficiles à combattre et qui rendent les installations paysannes très difficiles d'accès. Donc, cette partie-là explore... à la fois l'hypothèse et toute cette problématique de l'installation et du rapport à la terre dans notre société occidentale ultra spécialisée. Et propose aussi d'élargir cette perspective. Enfin, reprendre la terre, ça veut aussi dire construire des communs à d'autres endroits. Enfin, être capable de... Enfin, ce qu'on produit, les luttes effectives des soulèvements de la terre, c'est aussi des solidarités locales, des assemblées, des capacités à prendre des décisions, à s'organiser ensemble, à organiser des grands rassemblements aussi dans leur dimension logistique, créer des cantines de lutte qui peuvent nourrir des milliers de personnes, par exemple. Et donc, du coup, effectivement, c'est largement une question qui reste à traiter, mais il y a aussi des perspectives de réorganisation et de fabrication de communs qui sont en gestation au sein des luttes. Dans cette partie, il y a aussi deux petits textes de positionnement, disons, plus théorique. Un qui essaye de tracer une ligne assez claire parce que la notion de terre, elle n'est pas seulement brandie par des mouvements écologistes qui défendent des luttes territoriales, mais aussi par des identitaires racistes et islamophobes. Et aujourd'hui, beaucoup, c'est-à-dire que la notion de défense de la terre et du terroir, Bardella le porte aux Européennes. Donc l'idée, c'est aussi d'essayer de pouvoir montrer comment est-ce qu'il y a quelque chose qui touche, parce qu'en fait, la question de l'ancrage et de l'enracinement, c'est pas une question taboue, c'est une question qu'au sein des luttes qui luttent contre l'ordre établi, on doit pouvoir poser, traiter, le désir d'enracinement, on doit pouvoir y répondre. Et du coup, avec les luttes territoriales, il y a quelque chose où ça semble possible d'imaginer un rapport à la terre qui ne soit pas un rapport crispé, identitaire, xénophobe, ou qui implique que le territoire il soit hérissé de barbelés, quoi. Donc c'est essayer de penser et de vivre des rapports au territoire qui soient des rapports hospitaliers et hybrides. Voilà. Et je terminerai peut-être pour dire que la quatrième partie, c'est une partie qui est plus, à vrai dire, un peu brouillonne, et qui tente de plutôt proposer, disons, une espèce de description de ce que c'est que l'organisation des soulèvements de la terre, et de contribuer du coup à des réflexions plus stratégiques, de réinscrire la tentative des soulèvements de la terre dans, disons, la séquence des 20-30 dernières années de lutte et de lutte internationale qui ont plutôt vu du coup, évidemment, le reflux de la gauche et des propositions marxistes, mais du coup aussi tout un tas de mouvements, et à l'international et en France, des mouvements auto-organisés, plutôt spontanés, qui vont venir demander le retrait d'une mesure ou carrément la chute d'un régime, qui sont des mouvements très forts et qui ont été à travers le monde et en France de manière récurrente les dernières années. Et en même temps, quelque chose dans ces mouvements qui peine à obtenir des victoires. Et au niveau beaucoup plus... disons proche de nous, en tout cas depuis la question des ZAD et la question des luttes territoriales, à la fois il y a quelque chose qui est très enthousiasmant, il y a c'est des nouvelles formes de lutte, elles arrivent à parfois obtenir le retrait des projets, mais en vrai pour un aéroport qui se fait pas, il y en a 25 qui se construisent, et pour quelques fermes sauvées, vous en avez je sais pas combien qui se font avaler par le système agro-industriel. Donc il y a quelque chose d'un peu désespérant dans ce constat, et du coup la quatrième partie essaye de réinscrire la tentative des soulèvements de la terre dans cette volonté de, à la fois, être un mouvement, pas être une organisation hiérarchique, verticale, qui se dit on a la solution, la bonne nouvelle, on va vous l'apporter, il faut que tout le monde prenne sa carte et nous suive pour que la révolution se fasse, et qui en même temps tente d'avoir tout de même une structure, son propre agenda, de ne pas suivre seulement le rythme des mouvements sociaux ou de grognes populaires qui reviennent comme ça régulièrement, parce qu'avec l'impression qu'il y a besoin de construire sur le temps long des formes de réseaux de résistance, de solidarité matérielle, de perspectives politiques qui soient plus denses et plus qui soient capables de se structurer d'une manière un peu plus solide que le font la résurgence répétitive comme ça des mouvements sociaux. Et le livre se veut vraiment une espèce de contribution à la pensée en cours au sein des mouvements de lutte politique aujourd'hui, et prétend pas du tout avoir une réponse toute faite. Peut-être que je m'arrête là et je vous ouvre aux questions.
Merci déjà pour cette présentation. Et du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qui peut justement être dit sur les mouvements de ces 10 ou 20 dernières années, si on peut approfondir un peu sur... les différents mouvements politiques et écolos de ces dernières années et la manière dont ils ont évolué ou...
C'est les mouvements sociaux ces 10 dernières années. Bon, j'ai dit un petit mot sur les mouvements climat. Ouais. Je peux ensuite, ce qu'on voit aussi, malgré tout, dans les luttes, c'est que si on prend la réforme des retraites, par exemple, il y a eu des déplacements même dans les mouvements syndicaux, dans les manifestations, etc. Bon, il n'en reste pas moins que il y a eu des déplacements très forts dans certaines manifestations, etc. Mais cette tradition de lutte, de l'action directe de masse, n'est pas acté véritablement par certains mouvements sociaux. Je ne sais pas, je ne vois pas trop ce que vous voulez. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un épuisement. Malgré tout, il y a d'énormes mobilisations. Le climat, les retraites, etc. La loi travail avant, etc. Il y a d'énormes mobilisations qui s'adressent au gouvernement pour dire, voilà, qui, avec des revendications, et c'est des échecs. Alors qu'il y a une force, il y a apparemment en tout cas une force très grande. Donc je crois qu'une des hypothèses du soulèvement de la Terre, c'est de ne pas rester à cette situation qui est désespérante, parce que souvent elle est démobilisatrice, elle engendre du fatalisme, etc. etc. C'est montrer l'impuissance qui naît du fait de demander au gouvernement d'agir. Voilà, d'avoir des défaites. Et là, c'est au contraire, c'est réincorporer l'action au sein des luttes et au sein des mouvements. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la manifestation protestataire, c'est il y a un contenu de reprendre en main, d'agir collectivement selon une composition qui a été décidée à l'avance, etc. etc. Mais c'est ça le sens de l'action. Et par exemple, quand on dit, parfois le mouvement climat disait le gouvernement ne fait rien, il n'agit pas. Mais si, il agit beaucoup trop même. Il n'arrête pas d'agir. On lutte contre l'inaction climatique du gouvernement, mais il agit tous les jours contre le climat, d'accord, mais il agit tous les jours. Donc c'est par rapport à ça, c'est retrouver une puissance d'agir à partir des territoires et à partir de situations vécues, ressenties. Voilà, c'est ça qui est... En gros, il ne s'agit pas de sauver la planète, l'humanité, le climat et je ne sais pas trop quoi. Voilà, c'est-à-dire autant de choses surplombantes, etc., qui nous désarment, en fait. Mais de concrètement se réapproprier le sol de nos luttes.
Merci pour cette présentation. J'ai une question qui est comme un peu à côté de la question écologique, mais comme tu l'as dit, tout nous y ramène. Je suis personnellement inquiet de la montée de l'extrême droite en France. Je pense que je ne suis pas le seul. Et j'y vois plusieurs risques. Un risque écologique, parce que le programme, il n'est pas du tout écolo. Un risque, évidemment, social, politique, culturel, etc. Et puis, un risque de répression de mouvements comme le soulèvement de la Terre, encore accru, avec vraiment un autre ordre de grandeur. Et notamment avec des groupes... comme il peut en exister aujourd'hui, mais qui pourraient agir, non pas la police, mais des groupes qui pourraient agir de façon totalement décomplexée contre ce type d'initiative. Et si on pense au mouvement des agriculteurs, certaines franges de ce mouvement-là pourraient être encore plus décomplexées dans leur action qu'aujourd'hui. Et donc ma question, c'est est-ce que cette question, elle est pensée depuis les soulèvements de la Terre, en se disant, est-ce que, quelque part, le mouvement... s'investit d'une mission de lutter contre la montée de l'extrême droite, qui passe sans doute par, comme sur l'écologie, éviter une écologie moralisatrice, un catéchisme vert, etc. Peut-être sur des questions sociales et culturelles, de manière générale, éviter le clivage. Et un bon exemple, c'était quand même lors des Gilets jaunes. Il y avait quelque chose de spécifique là qui se passait, où il y avait des personnes de bords politiques très différents. Et je me rappelle cette interview de Hamon qui disait « Comment Mélenchon peut se féliciter d'un tel mouvement ? Il y a des gens d'extrême droite dedans. » Bon, ce n'est pas avec de tels discours qu'on fait refluer la montée de l'extrême droite. Et comment est-ce que voilà, les soulèvements de la Terre, par leur positionnement idéologique, et le positionnement qu'illustrent les actions par leur discours et par le contenu du livre que je n'ai pas encore lu, se positionnent par rapport à ce sujet-là.
Bon, c'est une question difficile, t'aurais pu attendre un peu. Non, pardon, c'est juste que c'est effectivement, j'ai l'impression que... Enfin, déjà, c'est sûr, il n'y a pas de réponse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une réponse. Du coup, je peux bien dire à différents endroits comment il y a des réponses, mais... Je pense que c'est quand même la question là de la montée de l'extrême droite et de la pénétration de ses idées et de ses actions partout. Bref, c'est un vrai problème, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on aurait besoin d'en discuter ensemble. Mais après ces précautions de langage, Alors, bah, tu l'as un peu dit, du coup je le redis quand même, mais ouais, je pense que déjà faire exister une écologie qui n'est pas morale et qui est une écologie de l'action et de l'action collective, c'est quand même déjà un premier quelque chose à faire, parce que je pense qu'un des plus grands échecs de la gauche, c'est d'opposer je sais pas, une culture de la culpabilité à des propositions qui s'appuient sur des peurs et des désirs, mais du coup des affects réels qui traversent la société et pas des grands principes, quoi. Et je trouve que pour le coup, les soulèvements de la terre sont un mouvement qui ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de la politique à partir de principes, mais à partir de capacités et voilà. Ensuite, il y a le fait d'être justement présent dans des franges de la société qui sont où l'extrême droite est présente aussi, enfin du coup en particulier chez les agriculteurs. Enfin là, clairement, la Confédération paysanne et les écolos sont minoritaires, mais du coup ça existe. Récemment, par exemple, il y a des camarades de Pologne qui disaient qu'en fait un mouvement comme le soulèvement de la terre était complètement inimaginable là-bas, tout simplement parce que ça n'existe pas, l'existence d'un syndicat paysan de gauche, et que l'agriculture est intégralement fasciste. Ce qui est un problème. Enfin, du coup, la question de l'alimentation, la question de la terre, la question de l'appartenance, du territoire, sont des thématiques qui sont inabordables par les forces de gauche. Et ça, c'est un problème parce que c'est des thématiques qui, en fait, touchent et qui portent à raison, quoi. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y ait un mouvement de lutte anticapitaliste, ou enfin, bref, voilà, dans les milieux de la paysannerie et du territoire, c'est important. C'est une manière de lutter. Il y avait une troisième idée, mais je vais l'avoir oubliée probablement. J'aurais dû la noter en même temps que j'écoutais ta question. Eh oui, si, bah en fait, c'est construire une organisation. En fait, construire une organisation, ce que j'ai dit, quoi. Enfin, pour moi, c'est une manière aussi d'être capable de se rendre prêt, enfin, de faire ce qu'il faut pour, au cas où ce que tu dis, quoi, en cas d'une répression supplémentaire encore, parce que ce serait un gouvernement encore plus réactionnaire au pouvoir, d'avoir une organisation qui est capable d'intervenir, qui est capable de soutenir ses membres, etc. Ça me paraît être une manière aussi de, non pas de lutter, du coup c'est plutôt défensif, mais de se défendre face à l'extrême droite. Bon, c'est insuffisant comme réponse.
Je pense que c'est vrai que ça n'a pas été discuté pour le livre. En revanche, ça fait partie des discussions à venir, en cours, dans les soulèvements de la terre. Je voudrais citer une autre chose, peut-être. C'est quand même les soulèvements de la terre ont essayé, enfin, en tout cas, c'est un essai, au moment du meurtre de Naël et des émeutes qu'il y a eu à ce moment-là. Bon, il y a eu plusieurs jonctions qui ont été faites avec des gens des groupes des soulèvements de la terre dans des manifestations de soutien à ces jeunes qui se révoltaient par rapport au meurtre qu'il y avait eu par rapport à Naël. Bon, donc ça, c'est embryonnaire, évidemment, mais c'est dans ce sens-là, en tout cas, que ça se pense. Et juste, je voudrais dire un truc, c'est que quand tu parlais des milices, etc., bon, c'est sûr, mais elles existent. Enfin, malheureusement, sur les luttes, ça existe déjà. C'est pas des milices organisées qui n'ont pas tout pouvoir, etc., etc. Mais des groupes privés, ben, on avait vu. Alors, c'était des paysans, mais pas seulement. Sur Sivens, par exemple, c'était quand même très dur au niveau de la lutte, parce qu'il y avait des groupes privés, pas seulement la police, hein, qui attaquaient ceux qui étaient contre. Sur la 69, par rapport à la ZAD, hein, ils sont attaqués pas seulement par la police, mais aussi par des groupes privés. Donc c'est un vrai risque, oui.
Ouais, non, c'est ça que je voulais. Pardon. Enfin, sur ton premier point, effectivement, au moment des révoltes suite à l'assassinat de Naël, il y avait eu quelques jonctions, mais effectivement, une manière de lutter contre la montée de l'extrême droite, c'est aussi de constituer des alliances et des fronts de lutte bien au-delà de l'écologie. Et là, avec la situation de la guerre en Palestine, il y a aussi à cet endroit-là des alliances qui sont nouées, enfin qui commencent à l'être et qui peuvent l'être. Et la notion de désarmement, elle peut être étendue d'une manière à d'autres questions que celle des infrastructures du capital, également par exemple. Enfin, je veux dire le fait qu'il y ait un soutien très matériel de l'État français au bombardement, enfin. Tout ça, c'est des questions qui peuvent aussi permettre de faire des ponts et des alliances, même si c'est très aussi débutant. Enfin, ça, c'est tout à fait. Ça existe peu. Mais j'ai l'impression que c'est une autre manière de répondre à ta question.
Je peux faire un petit complément. J'avais un peu une idée en tête. C'était, je suis membre sociétaire de l'Atelier Paysan. Et c'est une question qui traverse, là pour le coup, vraiment en plein l'Atelier Paysan. Savoir, il y a des personnes qui sont proches ou ont appartenu à l'Atelier Paysan, qui individuellement composent avec des membres de l'extrême droite et qui pourraient, pour certaines positions, facilement être traitées de fachos pour des personnes qui auraient le qualificatif un peu rapide. Et voilà, c'est vraiment une question qui se pose de comment est-ce qu'on compose avec ça au sein d'un groupe qui n'est pas les soulèvements de la terre, ce n'est pas une entité politique en tant que telle. Mais voilà, du coup, là, juste pour dire, voilà, un exemple de travail de cette question-là, de se dire si on se refuse complètement, on accentue le clivage et on fait le jeu de l'extrême droite, mais en même temps, on donne une certaine direction et il y a un bricolage qui est fait à cet endroit-là.
Bonsoir. Moi, j'avais lu le bouquin, j'ai beaucoup aimé, et ça tient ensemble plein de questionnements, et je trouve le fait de se poser des hypothèses plutôt que d'essayer d'apporter la réponse directement, ça fait du bien, c'est une très bonne chose. Juste, j'ai peu remarqué les possibles alliances avec des travailleurs et des travailleuses des secteurs du BTP ou de l'agro-industrie. Est-ce que c'est des perspectives qui... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un chapitre dédié à ça, ou même si ça traverse plein d'autres questions. Voilà, peut-être un mot sur ces perspectives-là, parce que si on démantèle et qu'il y a plein de gens au chômage, ça ne va pas tenir longtemps.
Bah, je peux se dire, et dire surtout que c'est un gros manque. Enfin, si on est honnête, hein, c'est sûr. Hein, je veux dire... Après, par exemple, sur la lutte des bassines, pour le coup, vraiment, les syndicats, ils sont très présents, autant la CGT que Solidaire, et que d'autres, peut-être, probablement que j'oublie, pardon. Mais parce que, avec cette idée que, oui, il n'y a pas de perspective heureuse au sein de l'agro-industrie et tout ça, mais malgré tout, moi, je trouve que, oui, c'est plutôt un manque. Il y a plusieurs moments dans le livre où c'est dit « Ah, il faudrait », mais c'est un « il faudrait ». Enfin, évidemment, dans l'agro-industrie, en fait, on dit toujours « il y a 3% d'agriculteurs qui nourrissent la France ». En fait, non. Si on regarde le nombre de travailleurs qui bossent dans les abattoirs, le conditionnement et ensuite les supermarchés, en fait, je sais pas combien il y a de pourcentage de travailleuses et de travailleurs français qui bossent pour nous nourrir, mais il y en a bien plus que 3%. Sauf que en effet, ces personnes-là, elles sont pas présentes dans les luttes parce qu'il y a une précarisation du travail qui fait que, je sais pas, oui, les identités sociales sont éclatées, les rapports ils sont compliqués, mais c'est plutôt un manque. Et j'ai pas vraiment pour le coup de réponse à comment le combler, si ce n'est il faudrait que les luttes écolo se lient avec ceci ou cela, mais c'est pour le coup pas vraiment fait quoi.
Non, c'est pour ça que le livre n'est pas un manifeste où il y aurait une ligne préétablie, conçue, et c'est pas un livre de solutions non plus. Donc tous ces manques-là, ils ne traversent pas seulement les soulèvements de la terre. Hein, c'est cette difficulté qu'il y a à penser ça. Mais il y a l'hypothèse quand même que, certes, pour l'instant, la difficulté n'est pas résolue, mais c'est pas ça qui doit nous empêcher d'agir. Parce qu'on se retrouve devant des questions tellement énormes et monstrueuses qu'on peut être complètement dans une sorte de fatalité en disant bon, on peut rien toucher parce que là, ça va poser des problèmes. Bon, non, c'est certainement en avançant que des alliances pourront se faire. Bon, je vois pour l'A69, par exemple, il y a eu des alliances avec Sudrail, par exemple, des discussions avec la CGT, du fait de la ligne de train qui jouxtait la Crémarbre, la ZAD, sur laquelle il y avait les écureuils. Et donc la région a fermé la ligne plusieurs fois, etc. Enfin bon, bref. Donc là, il y a eu des discussions véritablement avec le Sudrail et avec la CGT. Bon, mais c'est dans la lutte que c'est apparu. C'est pas sur on va se mettre d'accord sur un texte sur le démantèlement. Hein, ça, j'y crois pas. Hein, c'est dans les luttes comment ça pourra se construire. Bon, voilà, c'est... Mais par exemple, bon, je jette la pierre à personne. Mais c'est une question qui peut être posée. Au moment de la grève des retraites, des grèves des retraites, il y a eu un mouvement très dur dans les raffineries. Les raffineries, c'est un point central quand même. hein, d'alimentation, d'énergie et tout. Bon, là, en tout cas, dans une stratégie soulèvement de la terre, il aurait fallu tout mettre sur les raffineries, enfin, beaucoup plus sur les raffineries qui apparaissaient véritablement comme le point à partir duquel il pourrait y avoir une bascule. Alors, ça pose plein de problèmes. Bon, les syndicats ne l'ont pas fait. Ils ont accompagné la lutte dans les raffineries, mais pas plus. Donc, c'est ce genre de questions, mais là, il n'y a pas les solutions. Mais le fait qu'on n'ait pas, qu'il y ait tous ces problèmes, toutes ces contradictions, hein, c'est même plus que des équivoques, c'est des contradictions, ne doit pas empêcher d'agir. Voilà, c'est ça, et de commencer.
Mais justement, est-ce que l'important quand on agit, c'est de se poser cette question-là, c'est-à-dire que l'activisme en lui-même n'est pas le but? Le but, c'est la transformation avec les gens, comme tu as dit, dans un territoire. Donc, est-ce que vous pourriez reprendre l'exemple de l'autoroute et dire comment les choses se sont transformées du point de vue des gens sur place ? Pas seulement les paysans concernés par l'expulsion, mais les gens autour. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à raconter ?
Bah, c'est une question un peu difficile parce que c'est comme de devoir raconter quelque chose qui est en cours. Oui. Alors, il n'y a vraiment pas le recul nécessaire. D'ailleurs, l'autoroute est assez absente de ce livre. C'est difficile de faire des grands récits quand c'est vraiment à peine. Il a été écrit plutôt quasiment. Il a commencé en même temps que la lutte, quoi, le livre. Déjà, ce qui est sûr, c'est que. Il y a une espèce de... Enfin, comme tu l'as dit... Pardon, je bafouille un peu. Qu'il y a un truc un peu miraculeux de la... Je sais pas, des capacités d'organisation collective. En fait, tu te retrouves à te rendre compte que tu peux organiser sans chef, sans organisation, c'est-à-dire sans structure organisationnelle qui relaie tout ça, des événements à 10 000 personnes qui font fi d'un dispositif policier impressionnant et en même temps s'amusent. Du coup, ça, quand même... C'est vrai que t'es pas pareil avant et après avoir fait un truc comme ça. C'est-à-dire avoir fait des réunions à 50, ça part dans tous les sens, vraiment des gens de tous les âges qui parlent vraiment pas trop le même langage et quand même, à la fin, bah, ça ressemble à quelque chose et même presque, et le monde n'est pas exactement pareil avant et après, quand bien même, ils remettent ce truc dans sa place. Quoi. Voilà, c'est une manif à 10 000 personnes dans le Tarn. Mais quand même. Et du coup, il y a ça. Et il y a du coup la rencontre aussi entre, je pense, vraiment des habitants, des habitantes, des gens qui mènent des existences, qui sont quand même prises dans tout un tas de dépendances et de choses, qui n'ont pas spécialement des grandes idées sur la politique, juste ils n'ont pas envie de se laisser faire et ils ne veulent pas que ce soit des gens qui habitent à 10 000 km qui décident de à quoi va ressembler le terrain autour de chez eux. Ces gens-là qui décident de s'organiser ensemble et des militants, des militantes qui sont parfois bardés d'idéologie de manière un peu fatigante, qui vont se retrouver ensemble... Et bah, les militants idéologiques, peut-être, ils vont se calmer un peu sur l'idéologie. Les habitants, ils vont en fait comprendre que oui, si jamais tu vois pas la racine du problème et que tu vas pas un peu plus loin, que t'es obligé en fait de dédier une part de ta vie à ça si tu veux pas justement que ta vie elle soit ravagée par ceux qui ont plus de pouvoir que toi. Bon, voilà, toutes ces dynamiques-là, c'est des choses qui quand même s'éprouvent et qui, je trouve, donnent de la force aussi parce qu'elles sont sur un temps beaucoup plus long que quand je sais pas, on se retrouve emporté par des torrent de manifestations qui durent quelques semaines, parfois quelques mois, et après, il n'y a plus rien, il ne revoit plus personne. Voilà. Et ça, il se passe quand même quelque chose à cet endroit-là, et c'est pas fini. Et en même temps, bah, je sais pas, les gens, ils sont épuisés. C'est quand même vraiment dur. Parfois, les gens, ils se comprennent vraiment pas, et ça creuse des clivages plutôt que ça en nous crée des liens. Honnêtement, je sais pas ce qui va rester de cette lutte dans un an, deux ans, trois ans. Je sais pas si le territoire, il sera vraiment... Ouais, c'est sûr, il sera changé. Il va rester des choses... Mais est-ce que, à la fin, la conclusion, en fait, peut-être je fais un petit aparté. Dans la conclusion, il y a trois espèces d'hypothèses grandes, genre pour le coup, politique fiction un peu. Genre, qu'est-ce que ça pourrait être, l'hypothèse des soulèvements de la Terre, si on poussait un peu, disons, le bouchon un peu plus loin, quoi. Il y a la première, c'est celle de réseau de résistance, j'ai un peu évoqué. Genre, en fait, densifier dans tout le territoire, il y a des comités de soutien des soulèvements, il y a des lieux un peu autogérés où ça vient s'organiser, des fermes en lutte qui peuvent héberger des gens, qui nourrissent les luttes, des cantines, des machins. Bon, vous voyez, des assemblées de voisins. Et ça fait comme un réseau qui est capable de quand même se mobiliser. Bon, c'est, voilà, ça, c'est pas du tout le cas, hein. C'est vraiment une espèce d'imaginaire, mais c'est pas inimaginable. La deuxième hypothèse, c'est celle de territoires qui, à force de résister à un projet, deviennent vraiment ingérables, enfin, ingouvernables, sont trop pénibles, ils ont des assemblées régulières, ils se connaissent tous bien, ils peuvent mobiliser rapidement des forces, tout ça. Ça, c'est, je pense, les gens qui sont un peu pris dans la lutte des bassines, qui imaginent ce qui peut se passer dans les Deux-Sèvres si vraiment ça dure encore 10 ans, cette histoire. Voilà. La dernière hypothèse, c'est plus celle de gros mouvements sociaux qui n'ont pas forcément à voir avec l'écologie, voire même qui sont même franchement anti-écolo, comme il y en a pas mal, mais au sein desquels des bouleversements ont lieu et où, pour le coup, peut-être quelque chose comme les soulèvements de la Terre pourrait intervenir d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà, c'est les trois... Je pense que les gens aiment bien le chiffre 3, hein, parce que la dernière me paraît moins convaincante, mais... Bref. En tout cas, la deuxième, celle d'un territoire ingouvernable, c'est un peu l'espèce de perspective souhaitable. Et donc, à la fois, il y a des choses dans ce qui se joue dans le Tarn, là, qui me paraissent pouvoir donner du grain à moudre à cette hypothèse, et en même temps, c'est dur. C'est pas si sûr, j'en sais rien. Parce que, voilà, les gens aussi, ils se fatiguent, ils se fâchent, ils se comprennent pas, c'est dur. Enfin, je sais pas vraiment ce qui va rester. Il y a aussi des grosses... les militants idéologiques, là, et les habitants, des fois, le fait de devoir s'organiser ensemble et de pas y arriver, ça creuse les choses plutôt que ça les approfondit. Donc, voilà pour ma réponse.
J'ajoute une petite chose... C'est que je crois quand même, c'était des gens au départ qui ne se connaissaient pas. Hein, les gens de La Voix est libre, qui est la grosse association fondatrice, ils ne se connaissaient pas. Et ils habitaient à quelques kilomètres parfois les uns des autres. Donc ça a soudé quand même une sorte de communauté. Bon, ils sont fatigués, mais je pense quand même qu'il reste le truc sur la lutte. Et puis, il y a de l'imprévu aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense, pendant un moment, cette autoroute, elle était abstraite et beaucoup de gens étaient indifférents ou fatalistes. Et puis, se construisant, ça a réveillé des consciences quand même. Hein, et en particulier par rapport aux usines à bitume. Ça, ce n'était pas prévu au départ. Hein, la résistance qu'il y a dans les villages contre les usines à bitume, ils font des réunions à 500 personnes hein, dans ces villages-là, alors qu'il y a 200 personnes qui y habitent. Donc là, il y a une vraie résistance sur les usines à bitume. Ça construit le territoire, je trouve. La lutte construit le territoire aussi. Hein. Alors, je ne sais pas s'il sera gouvernable ou ingouvernable, mais en tout cas, ça construit un territoire. Et ce n'est pas un territoire limité au Tarn. Le fait qu'il y ait la manifestation sur les gravières la semaine prochaine, le week-end prochain, c'est que pour faire l'autoroute, on a besoin du granulat qu'on extrait dans les gravières de l'Ariège. Donc, il y a des liens qui se font entre les luttes dans l'Ariège et les luttes sur le Tarn. Bon, bref, ça construit quand même quelque chose, ça construit quelque chose. C'est après ce que ça va devenir. Il y a aussi une sorte de, entre guillemets, bon, c'est plusieurs qui me disaient ça, d'expertise. Alors, ce que tu disais, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas le même avant et après, ou la même avant et après, parce qu'on apprend des choses. Il y a des savoirs qui se partagent. Il y a aussi l'expérience des ZAD. C'est une belle expérience aussi sur l'autoroute. C'était improbable parce que la ZAD est absolument interdite. Hein, c'est vraiment la fixation par rapport à ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Et là, il y a une ZAD quand même qui se construit. Et là aussi, c'est un lieu d'expérimentation, un lieu d'expérience. C'est aussi un lieu d'expérience pour les habitants qui, au départ, peuvent regarder les ZAD d'un drôle d'œil en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive ?» Et puis qui... Alors, ça, le sentiment peut rester... Mais aussi, des liens peuvent se tisser. Il y a eu des choses absolument incroyables. Je trouve, pendant que les écureuils étaient sur les arbres, une organisation de la logistique, précisément matérielle, de la base arrière. Ils n'ont pas tenu avec rien. Hein, et c'est impressionnant. Et là, c'était des habitants qui prenaient les habits, qui les lavent, qui les sèchent, qui ramènent les plats, qui font les plats pour les nourrir, tant qu'on a pu les nourrir. Parce qu'après, on n'a plus pu les nourrir. Ben, il y avait toute une organisation matérielle, pour le coup, qui tisse quand même quelque chose dans le territoire. Alors, je ne sais pas ce qu'il en restera. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez beau qu'il n'y a pas dans simplement la manifestation d'un jour, l'événement. Ce n'est pas de l'événementiel. Quoi. C'est une forme d'ancrage. Et des gens qui ne se connaissaient pas. Hein,
Ça alimente le rapport de force.
Et ça alimente le rapport de force, bien sûr. Puis il y a une diversité de personnes aussi. Comme tu disais, une très grande diversité de personnes.
Bonsoir. C'était un simple témoignage. Je suis arrivée un peu par hasard à la réunion de l'année dernière des soulèvements de la terre à la Bourse du Travail. Jusqu'à maintenant, je me suis plutôt intéressée dans ma vie à la question du vivant psychique, voilà, la question de la santé mentale, etc. Et ce soir-là, je crois que je suis arrivée par hasard et ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai suivi, donc je suis un peu une observatrice de loin de ce qui se passe du côté des luttes contre la 69 et des soulèvements de la terre. Et là où je suis très épatée, bon déjà j'ai fait ma première manifestation à la campagne, alors ce qui restera c'est pour moi un événement, c'est-à-dire que les gens se sont rendus, en tout cas moi je me suis rendue à la campagne pour une manifestation, c'est-à-dire sur la terre et pas sur les bitumes, pour être avec d'autres dans la coactivité, si on peut dire ça, et partager un moment. Et après, ce qui me reste, c'est aussi cette question de travail. J'ai l'impression que ce que vous faites, ce que toutes les personnes autour des soulèvements de la Terre font, c'est réhabiliter la notion de travail. Parce que le travail n'est pas forcément un travail salarié, un travail commandé, etc. Mais c'est l'engagement de soi dans un processus créateur et pas forcément avec un but précis et commandité. Mais c'est effectivement s'engager pour quelque chose dans lequel, à la fin du parcours, on se trouve transformé soi-même et on transforme quelque chose autour de nous. Et peut-être avec un objectif qui n'était pas forcément celui qu'on avait identifié au départ. Et là où je suis impressionnée de toutes les compétences qui sont mises en œuvre, humaines, techniques et vivantes, c'est effectivement toutes ces personnes qui œuvrent dans les réseaux sociaux, dans la ZAD, sur les arbres, à l'extérieur, effectivement, pour pouvoir organiser ces... pour écrire, pour effectivement passer les messages à plus de personnes possible. Et dans un moment où la question du travail, je pense, que perd de sa valeur, en tout cas, la lutte contre le travail, effectivement, je pense qu'elle est un peu perdue. Pour moi, les soulèvements de la terre réhabilitent la notion de vrai travail créatif et humain. Voilà. Merci.
Mais c'est ça qui transforme aussi dans la lutte, parce que chacun arrive à trouver une place.
S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut lever le camp, se lever, bavarder plus tranquillement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir présenter. Camille et Geneviève, vous avez présenté Première secousse, signée collectivement par les soulèvements de la Terre. Merci beaucoup, bonne soirée.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment... content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.